Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Mon pinaise, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur ce bon vieux petit écran ou sur les plateformes de streaming. Après l'univers fantasy de Game of Thrones, après le monde des échecs de haut niveau du jeu de la dame, on se tourne vers un autre genre de héros, les super-héros. Aujourd'hui, retour à l'actualité avec non pas une mais deux séries fraîchement sorties du studio Marvel. Au programme, deux épisodes, le premier consacré à Falcon et le soldat de l'hiver qui vient juste de se terminer, le second sur WandaVision, diffusé entre janvier et mars. À mes côtés, pour décortiquer ces deux séries, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Julien Dupuis. Salut Julien.
Bonjour Clémence.
Alors, pour ce premier épisode, on a décidé d'attaquer directement avec la toute dernière nouveauté de la plateforme Disney+, Falcon et le soldat de l'hiver, The Falcon and the Winter Soldier en version originale. Une mini-série en 6 épisodes, le premier a été diffusé le 19 mars et le tout dernier épisode est tout frais puisqu'il est sorti vendredi 23 avril. De quoi est-ce qu'elle parle cette série? Vu le titre, bon, c'est pas très très dur à deviner, hein. Elle s'intéresse au personnage de Sam Wilson, alias Falcon, il est interprété par Anthony Mackie, et le Winter Soldier, donc Bucky Barnes, dans le civil, incarné par Sebastian Stan. On les retrouve quelques mois après les événements du film Avengers Endgame. On y reviendra en détail dans quelques instants. Et les deux héros vont faire équipe pour faire face au Flag Smasher, un groupe de terroristes dotés de capacités physiques hors normes. Et ce n'est pas tout, ils seront aussi confronté à John Walker, un ancien militaire choisi par le gouvernement pour être le nouveau Captain America. Falcon and the Winter Soldier, ce n'est pas la première série Marvel, évidemment, mais avec WandaVision, ce sont les deux premières séries de Marvel Studios et aussi les deux premières à être diffusées sur Disney+. Et oui, avant ça, les séries issues du MCU, le Marvel Cinematic Universe, étaient produites par Marvel Television, studio fermé en 2019 après son intégration à Marvel Studios. Et cette série, on peut dire qu'elle était attendue, initialement annoncée pour août 2020. La prod subit plusieurs coups d'arrêt. En janvier 2020 tout d'abord, une série de tremblements de terre retarde de plusieurs semaines une partie du tournage prévu à Porto Rico. Puis c'est la pandémie qui paralyse toute la production pour plusieurs mois. Sam et Bucky font finalement leur première apparition sur Disney+, le 19 mars 2021, avec plus de 6 mois de retard sur le planning. Mais le succès est au rendez-vous. 1,7 million de foyers auraient visionné le premier épisode à sa sortie, mieux que WandaVision et mieux que Mandalorian qui avait déjà tous les deux cartonné. D'habitude, dans We Love Series, on commence l'émission en s'attardant sur le générique, mais devinez quoi ? Pas de générique d'ouverture cette fois-ci, en revanche un long générique de fin, du coup on en reparlera à la fin de l'émission. À la place, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et revenir un peu plus en détail sur la façon dont la série s'inscrit dans l'univers Marvel. Stéphane, Julien, vous nous en dites plus ?
Il y a un truc marrant dans ce que tu viens de dire déjà, c'est que tu dis qu'il n'y a pas de générique d'ouverture, mais en fait, il y en a un. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui fait office de générique d'ouverture, qui te lance vraiment le générique. C'est-à-dire que tu as une séquence pré-générique, tu as un simili-générique. C'est là-dessus, en fait, que je vais attirer votre attention tous les deux et avoir aussi votre point de vue. Et puis après, tu as l'épisode qui commence, mais ce générique, ce qui fait office de générique, en fait, c'est le logo Marvel, qui est un gros logo, bien voyant, bien triomphant, avec une musique. Alors, je crois que c'est Michael Giacchino qui a fait le thème, qui est sympa d'ailleurs, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que tu te retrouves encore à nouveau dans ces productions ultra archi formatées, en fait, de Marvel, et finalement, dans une espèce de... Alors, au mieux, tu peux dire que c'est une grande cohérence. Au pire, tu peux dire aussi que c'est un nivellement, que c'est extrêmement lisse et que ça fait partie, en fait, de cette espèce de grande franchisation, je ne sais pas comment dire, en fait, de ce qu'a pu proposer en variété la Maison des Idées, quoi. Donc, je trouve que symboliquement, je voulais juste rebondir, en fait, sur cette petite chose, en fait, que tu avais dit en ouverture et qui me semble assez édifiante, en fait, de ce dont on va parler, en fait, vis-à-vis de cette série.
Ouais, et puis en fait, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Julien, il y a cette notion que quand tu regardes un film-série comme Falcon et le Soldat de l'Hiver, et bon, c'était déjà le cas sur WandaVision, mais là, c'est un peu plus flagrant parce que c'est une vraie série d'action avec beaucoup de scènes d'action. Alors Julien me fait du doigt bof, tu vois, c'est vrai, il y a quelques
épisodes
un peu plus mou, certes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est censé avoir ce qu'on appelle des vrais wow moments, quoi, c'est-à-dire des grosses scènes d'action qui sont censés être l'équivalent de ce que tu vois au cinéma. Et mine de rien, la frontière entre cinéma et télévision est plus ou moins abolie, là, en fait. Alors, de là à se dire que moi, c'était mon cas, hein, que c'était un peu de la série télé au cinéma, Marvel, voilà, là, c'est de la série télé à la télé, mais en fait, en gros, ils ont plus ou moins le même... Comment dire la même tenue visuelle. Et ça, c'est, je pense que ça sert leur propos. Pour moi, ça dessert un petit peu le propos de la franchise.
Non, mais c'est intéressant, je voudrais y revenir après, mais vas-y, Clémence.
C'est très, très exactement. En fait, la façon dont le tournage s'est déroulé, hein, c'est ce qui est expliqué, c'est que le tournage s'est déroulé comme un film de 6 heures qui a été découpé par la suite en morceaux.
Oui, et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on se retrouve aussi face à une vraie problématique, en fait, à laquelle se confronte aujourd'hui Hollywood, qui est, en fait, le blockbuster auparavant se détonnait, en fait, dans la production des autres productions, parce qu'il te proposait des images que tu ne pouvais pas voir ailleurs. Il te proposait, basiquement, un spectacle que tu ne pouvais pas voir ailleurs. Et c'est vrai qu'avec la puissance, en fait, des imageries numériques, et ces séries en sont à nouveau la preuve, hein, tu te rends compte que, finalement, ce que tu vois au cinéma aujourd'hui, on s'en rendait compte déjà avec des productions comme Game of Thrones auparavant et tout, finalement la série est de plus en plus en mesure, en fait, de te le proposer, ce qui par exemple dans les années 80 était absolument inimaginable. Dans les années 80, tu tapais des épisodes entiers de 50 minutes et puis tu t'attendais à un, deux petits moments d'effets spéciaux, tu vois, tu étais content. C'était le cas de V par exemple, de Manimal encore, tu vois, Manimal, tu
remontes très loin là.
Non mais je remonte loin, mais c'est intéressant parce que tu te farcissais tout un épisode, enfin moi en l'occurrence, pour voir une transformation d'homme en animal comme tu pouvais en voir au cinéma dans Hurlement ou dans Le Loup-garou de Londres. Et aujourd'hui, en fait, tu te rends compte avec un truc comme cette série-là, c'est que dès le premier épisode en plus, et d'ailleurs je trouve que c'est un peu un gros, je trouve que c'est pas très bien intégré d'ailleurs au reste de la série, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as une séquence d'action, donc avec le Falcon qui poursuit en fait des hélicoptères, et qui est effectivement une séquence qui détonnerait pas, en fait, dans Captain America 2, quoi, par exemple. Et ce qui est hyper étonnant, je suis un tout petit peu technique, hein, vous me pardonnerez ce petit écart, mais auparavant, là, sur la série, on savait qu'on pouvait faire des créatures en 3D, donc comme les dragons de Game of Thrones, hyper réalistes, quasiment aussi bien, en fait, qu'on va dire que dans Le Hobbit. Peu ou prou, hein, je grossis le trait, évidemment, avec des démultiplications de foules, avec des extensions de décors et avec beaucoup de costumes et une vraie production value. Là, ce qui est hyper impressionnant, par moi, c'est, en tout cas, ça m'a impressionné dans cette série, c'est que sur cette séquence-là, on est passé carrément au truc qui est aujourd'hui le plus difficile à faire et qui est une vraie bataille aujourd'hui dans les effets spéciaux, qui sont les doubleurs numériques de comédiens. Et alors, des fois c'est foiré, mais il y a quand même quelques plans qui sont vraiment 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 très très convaincants. Moi, j'avais eu t'envoyer un tout petit peu auparavant déjà dans Mandalorian, on en avait un petit peu parlé, je crois, avec Rafik dans cet épisode là mais là c'est vraiment poussé, parce qu'en plus il a visage découvert, en fait, le Falcon, donc ça démultiplie, en fait, les difficultés et là c'est vrai que tu te retrouves avec un ça va être intéressant de voir que là, comment le fait que Marvel, en fait, s'installe, en fait, à la télévision, de voir comment ils vont réussir à démarquer leur grosse production cinéma par rapport à ce qu'ils proposent aux spectateurs sur Disney+. Ça va être intéressant de voir justement comment eux, ils vont gérer cette tension-là qui est en train de se créer.
Après, pour revenir un petit peu sur le résumé que tu as fait de la série, il y a quand même un point, il me semble, hein, qui manque dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a un nouveau Captain America, certes, mais c'est parce que justement le Falcon a renoncé.
Oui, alors j'allais pas tout dire non plus,
voilà,
justement.
Là, c'est le début, c'est pour ça.
L'idée, c'était qu'on parle justement de la façon dont ça s'inscrit dans les différentes phases de l'univers Marvel au cinéma. Et donc là, on est au début de la phase 4. On en reparlera plus en détail dans le prochain épisode, mais là, on est au début de la phase 4. En tout cas, il a donné son bouclier. Il n'y a plus de Captain America. Il a donné son bouclier à Sam, donc à Falcon. Et la série commence effectivement avec cette décision de Falcon de renoncer à ce bouclier pour diverses raisons. Mm-hmm. Et je te laisse.
Non, et c'est en fait c'est un peu cousu de fil blanc, on va dire, parce que une fois que c'était accepté, Endgame, c'est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Donc en fait, tout le monde s'attend à ce que justement une série comme Falcon et le Soldat de l'Hiver propose ce nouveau Captain America. Et effectivement, donc lui, il renonce à ce bouclier. Je pense qu'il y a c'est pour construire un arc pour le personnage de Sam, hein, c'est-à-dire quand tu le vois renoncer au bouclier au premier épisode, tu sais qu'il va accepter le bouclier dans le sixième épisode. La question, c'est comment. Et cet arc-là, il y a un point qui est à la fois intéressant et à la fois je trouve qu'ils vont un petit peu loin dans leur démarche, mais c'est un peu un des trucs que je pourrais reprocher à Marvel, c'est que ils posent la question de est-ce qu'un personnage comme Captain America pourrait aujourd'hui exister dans l'Amérique s'il était noir, en fait. Est-ce que, en fait, l'Amérique accepterait un personnage de Captain America noir? Et évidemment, entre la sortie de Endgame et, Falcon et le Soldat d'hiver, il y a eu le mouvement Black Lives Matter, il y a eu toute l'histoire avec George Floyd, il y a eu tous ces remous sociopolitiques, en fait, américains. Et la série traite de ça. Il y a notamment en fait une scène assez intéressante qui arrive, je crois, à épisode 4 ou 3, 4, je sais plus, 5, et sur un dialogue entre Sam et un ancien super soldat de l'époque de Captain America.
Isaiah, ouais.
Voilà, qui lui explique ce que ça voulait dire en fait pour lui et la souffrance en fait que ça impliquait d'être ce super soldat, d'être, comment dire, mis de côté par son pays, par le gouvernement, etc., etc. Et en gros, ça, c'est assez intéressant. Moi, mon problème, c'est la façon dont ils arrivent à résoudre le truc, en fait, parce que c'est un point en fait qui est valide. C'est un point que le personnage met en avant, qui finalement en fait est mis là pour dire bon, on le traite, et puis on le balaye. Je trouve que par exemple, là, j'ai spoilé. En fait, il y a la résolution de la chose avec une statue, une reconnaissance en fait même tardive. Je trouve que c'est un peu malvenu, et c'est d'autant plus malvenu que il y a cette espèce de fantasme en fait dans la série donc le Falcon accepte en fait de devenir le nouveau Captain America, donc un Captain America noir, et d'un seul coup il se met à réprimander les sénateurs et à leur expliquer dans un discours qui dure quand même un peu longtemps, hein, et qui est filmé, qui est retranscrit à la télé malgré lui, on va dire, enfin qui est capturé sur le moment, où en fait il est en train de les engueuler en disant mais vous savez, il y a des gens qui sont pauvres et vous êtes pas pauvres, et en fait vous devriez aider les gens qui sont pauvres, c'est votre travail. Et les mecs font ah bon, mais on savait pas, tu vois. Et c'est niveau naïveté, c'est ça, on descend dans les tréfonds du truc, et je trouve ça en fait dommage, parce que en fait on est dans une époque qui a besoin de traiter effectivement ce genre de problématiques, qui a besoin, en tout cas moi ça ne me pose pas de problème qu'une série de fiction en fait en parle, mais en fait pour le coup, si on essaye d'être un peu mature et adulte vis-à-vis de la situation, il faut que la résolution elle soit à la hauteur des problématiques amorcées, quoi. Et là, bah je dirais naïf, mais à la limite du cynisme en fait, parce que justement il y a tout un discours chez Marvel en fait qui est que on vous propose des méchants intéressants qui ont des choses à dire sur l'état du monde. Alors c'est pas un méchant en l'occurrence, ce personnage Shia, mais finalement en fait on les traite vite fait, mais à la fin c'est leur méthode qui font que bah ils sont méchants et on peut pas les laisser faire, et du coup toute l'idée c'est de les faire rentrer dans le rang, ou en tout cas de les éliminer s'ils ne le font pas. Et ça, c'est un discours qui sert, on va dire, disons-le, en fait, la logique libérale actuelle, enfin l'espèce de l'ultralibéralisme actuel, quoi, qui moi je trouve un peu dérangeante et un peu réactionnaire, quoi. Et du coup, à ce stade-là, je préfère finalement que j'ai presque envie de leur dire ne traitez pas ça si c'est pour le traiter comme ça, en fait. C'est ça mon souci, on va dire.
Alors, il y avait quand même une vraie volonté du studio derrière, hein, qui était avancée de traiter les questions de voilà, Captain America noir. C'est pour ça que Malcolm Spellman a été choisi pour être le showrunner de la série. C'était une volonté de sa part. Il cite pas mal de films justement qui traitent ces sujets-là dont il s'est inspiré. Falcon et Winter Soldier, c'est ça se veut très inspiré de tous ces buddy movies, et lui fait référence à La Chaîne, à 48 heures, à L'Arme fatale, à Rush Hour.
Sauf que alors Rush Hour, déjà bon, c'est quand même compliqué parce que c'est quand même un film moi je pense bon beauf mais raciste par sa boufferie. C'est-à-dire que c'est quand même un film où le personnage de Chris Tucker passe son temps en fait à se moquer de Jackie Chan parce qu'il est asiatique. Donc ça déjà, je trouve que c'est tendancieux. Et l'autre point en fait amorcé, c'est que certes oui, dans ces buddy movies là, dans 48 heures, dans L'Arme fatale, en fait c'est l'alliance entre un policier et un blanc et un policier noir ou un voyou. Noir comme c'est le cas d'Eddie Murphy dans 48 heures, mais en fait et c'est assez flagrant dans L'Arme fatale hein, parce que le personnage n'a pas du tout été écrit, le personnage de Danny Glover n'a pas du tout été écrit comme un noir, et c'est juste quand la directrice de casting en fait a proposé ça à Richard Donner que en fait Donner s'est dit mais le personnage est pas noir, et d'un seul coup en fait il s'est dit mais en fait c'est moi qui suis raciste, bien sûr qu'il peut être noir, pourquoi pas. Et du coup, c'est à part éventuellement quand on arrive au troisième épisode où ça peut être dans le deuxième épisode, pardon, ça peut être un tant soit peu traité vis-à-vis de l'apartheid, etc., etc., parce que les méchants sont sud-africains. Dans le premier Arme fatale, il pourrait être blanc, asiatique, noir, enfin peu importe. C'est pas du tout le sujet de du film. Et alors que dans Falcon, pardon, c'est le sujet en fait. Donc c'est des références où je pense que il peut se référer éventuellement au buddy movie pour la relation entre Sam et le soldat de l'hiver, mais et Bucky, mais sur d'un point de vue blague, ce genre de choses, etc., etc. Enfin, relation conflictuelle, hein. Quoi. Oui, encore. Mais
moi, j'aurais quand même surenchérir là-dessus, en fait, en disant moi, j'ai une problématique avec Marvel et en particulier avec ces deux séries-là. Et on en reviendra, je reviendrai là-dessus, en fait, sur WandaVision, mais qui est le schisme, en fait, j'ai envie de dire, en fait, le côté antinomique entre le discours, le projet et ce qui se passe réellement en fait dans la série. Et quand je dis ce qui se passe réellement, c'est pas simplement que moi je trouve d'une ironie folle, par exemple, que la série se termine, chaque épisode se termine et t'as le logo de la Géorgie en fait en énorme parce que ils ont bénéficié en fait des crédits d'impôts monumentaux. Et quand on sait ce qui se passe en ce moment dans cet état-là, la tension, le fait que Antoine Fuqua, que Will Smith ait refusé d'y tourner leur prochain film et tout, je sais pas. Moi personnellement, ça me fait doucement sourire. Mais ça, bon, peu importe. On va écarter ça.
En fait, Black Panther 2 sera tourné quand même là-bas.
Aussi là-bas, ouais. Ouais, il a signalé ça. Mais en dehors de ça, même à l'intérieur même du scénario, moi j'ai un vrai problème aussi dans ce traitement en fait du discours politique et ce à plusieurs niveaux. Déjà, moi j'ai toujours un souci sur la façon qu'ils ont de faire se réaliser en fait leur super-héros. Ce qui est intéressant du personnage de Sam, c'est qu'il a pas de super-pouvoir. Donc la question, ça va être de savoir comment lui, il se manifeste, il se distingue en tant que figure super-héroïque. C'est une question, par exemple, que Sam Raimi se pose très clairement, en particulier dans Spider-Man 2. C'est la figure sacrificielle, c'est l'abnégation, le don de soi total en fait à autrui, et surtout une foi inaltérable dans son prochain et dans la bonté de son prochain, quoi. Là, Marvel ne se pose jamais ces questions-là. C'est-à-dire que la façon que lui il a de se distinguer dans l'action en tant que super-héros, le Faucon, c'est avec du matos. C'est toujours ça, Marvel. C'est le matos qui les distingue. Parfois c'est leur super-pouvoir, mais là en l'occurrence c'est le matos. C'est que si t'as le bon matos, si t'as le matos dernier cri, alors là en l'occurrence il est fait au Wakanda, mais bon ça joue pas, enfin il joue pas là-dessus et tout quoi. Là c'est bon là tu vas réussir à gagner. Il est pas franchement très malin, moi je trouve. Il est pas franchement, il se donne pas vraiment plus que ça quoi. C'est juste que il a les bons gadgets au bon moment, il sait à peu près les utiliser et c'est bon. Du coup il s'en sort comme ça. Je sens que t'es pas d'accord, Clément.
Alors c'est pas que je suis pas d'accord, mais je me demande s'il y a pas quand même aussi une question d'état d'esprit parce que le fait que au départ il refuse et que le bouclier ne reste pas finalement sous cloche. On va le donner à un autre Captain America, parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi des autres personnages. Oui. Et tu vois, ce Paul Walker, ce personnage qu'on adore détester, qui est présenté immédiatement comme un personnage antipathique. Est-ce qu'il n'est pas là pour montrer tout ce qu'on ne veut pas, l'état d'esprit qu'on ne veut pas pour Captain America? Et Sam incarne l'inverse de
ça. Encore une fois, je veux dire, on parle de quoi là? On parle d'un truc qui va nous faire un discours comme Steph il vient de dire à la fin, parce que c'est vrai que ça c'est inattaquable, il est très bien ce discours, moi je suis content qu'il soit là, quoi. Mais on parle d'un truc de super-héros. Moi, ce que j'aime dans le cinéma de genre et ce que j'aime dans ces séries-là, c'est que le discours, au bout d'un moment, il est induit, il infuse dans la totalité de l'action. Si c'est pas là quand le mec il fait ces trucs de super-héros, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Ou en tout cas, le discours n'est pas présent, quoi. Donc, tu peux me faire tous les discours que tu veux à côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment lui se manifeste, il se réalise en tant que super-héros. Et là, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, voilà, quoi. Il y a un vrai problème. C'est de la symbolique. Ce qui est intéressant, par exemple, dans la série, c'est que effectivement, quand ce mauvais Captain America, il met du sang, en fait, sur le bouclier. Ça fonctionne, je trouve. C'est intéressant. T'en vois pas beaucoup du sang dans les productions Marvel. C'est très rare de voir du sang humain et tout. Et du coup, de voir le sang qui arrive là-dessus avec ce truc en contre-plongée et tout, là, je me suis dit, il se passe un petit quelque chose et tout. Mais c'est super rare, en fait. T'as deux, trois moments où il réfléchit à ça, notamment dans un combat avec lui, où justement, lui se sert du bouclier comme d'une arme offensive et Bucky et Sam lui s'en servent comme d'une arme défensive. Donc, de temps en temps, ça arrive. Moi, je te parle de la réalisation du nouveau Captain America à la fin. Ça me pose un vrai problème. Et c'est tout le temps comme ça, en fait, chez Marvel. C'était comme ça dans leur Spider-Man et tout. Spider-Man, il réussit parce que il a la dernière armure donnée par Tony Stark et tout. Spider-Man, normalement, c'est un super-héros du peuple. C'est important, ça me semble important. Moi, il y a un autre problème, en fait, là-dedans, qui est le côté ultra lisse, en fait, de la série. C'est-à-dire que t'es censé visiter... Donc là, t'es dans une ambiance géopolitique, on va dire, qui reflète l'état du monde actuel. T'es censé visiter des pays qui sont très pauvres, qui sont des coupes-gorges, qui sont des endroits où les gens ils souffrent parce qu'ils ont pas d'argent, parce que voilà, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis où alors là il y a une concentration des richesses, etc. Ça n'existe pas, ça n'est pas là en fait. C'est-à-dire que la façon qu'ils ont de dépeindre en fait ces pays-là, c'est tout lisse, c'est tout propre. T'as éventuellement une poubelle qui traîne dans un coin ou de temps en temps peut-être un petit graffiti. Mais moi, ça me pose un problème aussi, ça. C'est-à-dire que j'ai pas de point d'ancrage. C'est encore une fois extrêmement ethnocentrique, en fait. Moi, je suis à Disneyland tout le temps, en fait, dans cette série-là. Et ça devrait pas être le cas. Ça devrait vivre. Ça devrait exister. Quand tu vas visiter un pays du tiers-monde, tu vas visiter un pays du tiers-monde, quoi. C'est ce que Neil Blomkamp, il fait dans ses films, quoi. Dans Elysium, le peu de moments où il te dépeint Los Angeles comme un pays du tiers-monde, t'as l'impression que c'est là. T'as des gamins qui crèvent la dalle, qui traînent dans la rue, il y a plein de poussière et puis ils cherchent à s'amuser avec tout ce qu'ils trouvent en fait de déchets en fait dans le truc. Jamais t'as ça là-dedans. C'est extrêmement lisse, c'est extrêmement safe, quoi. Et effectivement, le dernier truc, c'est la façon qu'ils ont de te proposer en fait ces antagonistes, alors que ce soit le méchant Captain America ou que ce soit en fait les terroristes. Le méchant Captain America, moi je trouve ça d'une hypocrisie folle. C'est-à-dire qu'à la fin, ben, il rejoint quand même le camp des bons, quoi, le mec. Moi, ça me pose un problème. Je veux pas de ça. Je veux que s'il te présente ce personnage-là comme la facette martiale, interventionniste, enfin, tout ce que tu peux condamner des États-Unis, je veux que ce soit jusqu'au bout. S'il est dans le combat, ce personnage-là, s'il se fait son truc-là, il ne se comporte pas comme ça, le personnage-là. Et justement, ça aurait été dramaturgiquement hyper intéressant de voir nos héros, donc Sam, le Soldat d'Hiver et tout, se confronter en fait à ces deux forces, en fait, aux terroristes d'un côté et à ce que l'Amérique peut représenter de pire de l'autre côté. C'est pas le cas. Tout est simplifié, tout est unifié. Et c'est la même chose avec les antagonistes. C'est-à-dire que ils te le présentent à un moment comme, je sais pas, moi, une espèce de Greta Thunberg un peu plus, quoi, la nana. Et en fait, t'as envie de lui dire, bon, alors, c'est pas tout à fait le cas. En plus, je fais un raccourci, mais. Vous m'avez compris, quoi, quand même. Et finalement, c'est pareil, elle est balayée, quoi. Au bout d'un moment, à quel moment, finalement, dans le final, une fois que tu passes encore une fois à l'action, à quel moment tu te dis, t'es ébranlé? À quel moment tu te dis, ah merde, peut-être qu'il devrait pas faire ça et tout? Bah, moi, je trouve à aucun moment, en fait, tu vois. Enfin, moi, ça m'a fait suer parce que je me suis posé ces questions-là, mais je pense que quand tu te les poses pas et que tu te bouffes la série comme ça, non, au final, Je pense que Marvel, ils ont un vrai côté réac, en fait. Vraiment, vraiment, je pense. Et ça se sent, en fait, même dans, quand ils tentent, en fait, de ne pas l'être dans une série comme celle-ci. Et le rapport aux banques, par exemple, je trouve que, voilà, le fait que la banque se soit réduit, le problématique de la banque soit réduit à un petit employé comme ça, et que même à la fin, en fait, quand il se confronte aux dirigeants, ça aille pas plus loin. Enfin, je sais pas comment constituer ça, mais ça, moi aussi, c'est pareil, ça me pose des soucis.
Surtout que c'est normal de se poser des questions sur un personnage comme Captain America. Je veux dire, le premier film, il y a 10 ans, on l'avait fait, en fait. C'est normal de se poser des questions sur ce personnage-là, qui est
sur
quand
la
même
propagande, sur tout
voilà,
ça.
qui est quand même servait un certain propos à une époque, et de se dire bon bah on est dans les années 2010, 2020 maintenant, est-ce qu'on peut vraiment traiter ce personnage-là de cette manière-là? Donc qui se pose ces questions-là, c'est pas un souci, mais quand ils retombent sur leurs pattes sur la même logique, en fait, oui effectivement c'est problématique, mais y a ça, et puis moi je trouve il y a un autre problème, c'est que finalement quand on termine Falcon et le Soldat d'Hiver, ça aurait pu être un film de 2 heures. Et c'est une série de 6 heures. Donc en fait, du coup, il y a beaucoup quand même de délayage, de scènes où ils vont
d'action assez mal découpées en plus, Steph. Non,
alors moi, je trouve que mais c'était déjà, je trouve, un problème dans Captain America et le Soldat de l'Hiver, c'est-à-dire il y a cette espèce de, alors toujours dans la logique de Marvel, c'est-à-dire aller chercher une esthétique ici ou là, mais en fait la traiter de façon timorée. Même si moi, c'est une esthétique que j'aime pas. Hein, tu sens que pour faire dans le cadre de Marvel, pour faire quelque chose de réaliste, et là je mets les guillemets, hein, il y avait cette idée de caméra à l'épaule, de comment dire, à la Paul Greengrass, en fait, à la Bourne Identity, à la mort dans la peau, la mémoire dans la peau, tout ça, mais beaucoup plus timoré. Et là, je parle vraiment, c'est-à-dire que si tu sors des cadres des grosses scènes à effets spéciaux, hein, comme la poursuite sur l'autoroute, par exemple, comme la scène dont t'as parlé en ouverture, voilà, bah, c'est des bastons,
mano à mano,
qui ne met pas du tout en valeur, ne serait-ce que le décor, le truc. À la fin, c'est censé se passer à New York, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a à New York, quand vous vous baladez à New York, il y a beaucoup de travaux en général, et du coup, il y a beaucoup d'échafaudages. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a une scène où ils vont se battre, en fait, entre deux échafaudages. C'est malin. Et en fait, ça disparaît en 2 secondes parce que c'est pas du tout mis en valeur. Il y a pas de chorégraphie là-dedans, alors que ça aurait pu être pour le coup un truc assez sympa à faire. Mais en fait, tu sens qu'ils l'ont bazardé, quoi.
Mais en plus de tout ça, de la même façon qu'ils nivellent tout, tu vois, visuellement, je trouve qu'ils nivellent tout aussi. C'est-à-dire que la photo, par exemple, elle est hyper lisse. Enfin, tu vois les rampes de LED et même dans l'usage des couleurs, les talons et tout, c'est très confortable.
À la fin, ça ressemble vraiment à un film Marvel. Et le truc, c'est que en soi, ceux qui aiment, bah, je pense, peuvent être contentés par ça. Si ce n'est peut-être que, encore une fois, ça dure 6 heures cette fois. Et
alors, il y a une volonté quand même derrière l'intention en faisant durer ça plus longtemps qu'un film. C'était aussi de pouvoir creuser les personnages, c'était de prendre le temps d'introduire ce nouveau Captain America, c'était de voir les héros, que ça soit lui, que ça soit Bucky, on n'en a pas encore parlé beaucoup, mais dans leur quotidien, c'est montré aussi au tout début, dans les premiers épisodes, Sam qui rentre dans sa famille et qui voit sa sœur face à des problèmes très très réalistes du quotidien.
En fait, objectivement, c'est des scènes que tu peux couper. C'est-à-dire que si tu regardes vraiment ce que ça raconte, l'arc avec sa sœur, je veux dire, si c'est pour faire encore une scène de barbecue où ils sont en train de retaper le bateau, c'est pas efficace,
mais il y a une intention en tout cas qui est là.
Il y a cette intention, mais c'est en fait, s'il y a des choses qui sont posées, par exemple, en fait, il y a ce questionnement de Bucky, en fait, il va chez le psy.
Oui.
Donc il faut qu'il il a un problème à régler. Et en fait est-ce que il sort pas, donc est-ce que il va se remettre au goût du jour et se dire ça y est, je suis dans le 21e siècle, donc il faut que j'aille il faut que je trouve quelqu'un dans ma vie, par exemple, etc. Mais ça, c'est des trucs en fait qui sont amorcés. Donc t'as une scène entière où il a un rendez-vous avec une restauratrice, je crois, et en fait tu pourrais la couper, cette scène,
la fin il a lu le petit carnet, en fait,
six épisodes pour, tu vois, c'est un arc en fait quand même, c'est un arc, tous ces trucs là en fait, c'est moi j'ai pas de problème avec l'intimisme, c'est-à-dire je veux bien, en fait, mais c'est pas de l'intimisme, en fait c'est vraiment des clichés Et c'est pas investi. C'est-à-dire que, en gros, le personnage de la sœur de Sam, elle apparaît et disparaît. Elle n'est pas du tout dans la problématique de Sam. C'est-à-dire, en fait, il y a la problématique de super-héros de Sam et il y a la problématique d'humain de Sam. Et en fait, en gros, les deux sont décorrélés, en fait. C'est-à-dire que il y a le problème du bateau et puis il y a le problème de est-ce que j'accepte d'être Captain America. Alors, quand j'accepte d'être Captain America, j'en parle avec Bucky. Quand je dois régler le problème du bateau, j'en parle avec ma sœur. Mais en fait, pourquoi on peut pas mélanger les deux? Pourquoi on peut pas, comment dire, à un moment donné, traiter le truc en continu, quoi? Parce que c'est, enfin, moi, ça me semblerait normal qu'il en parle avec sa sœur, ce genre de choses. Bah non.
Et donc, inclure en fait, tout ça dans un truc, d'action, encore une fois, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie que ça.
Que ça bouge en même temps, bien sûr.
Que ce soit entremêlé, quoi, tout ça, qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Tu vois, j'ai pas envie que Bucky, bah, ce soit, il va dire au vieil asiatique, bah, c'est moi qui ai tué votre fils, et puis voilà. Non, je voudrais que ça se réalise dans le truc, quoi. Je sais pas, il refuse de tuer quelqu'un, ou alors il a une tension là-dessus, il faudrait qu'il le tue, mais il veut plus. Ou alors, enfin, tu vois, c'est marrant, c'est presque comme si le truc super-héros était rajouté en couche, en fait, pour faire passer le reste. Ou alors l'inverse, mais il y a quelque chose qui n'est pas fusionné là-dedans et qui devrait l'être.
Ouais, il y a une contiguïté, on va dire, des arcs.
Ouais, c'est peut-être ça.
Mais sans qu'ils s'entremêlent.
C'est bien, contiguïté, c'est pas mal.
Contiguïté, j'ai du vocabulaire.
C'est bien. Hein.
Est-ce que... On parlerait pas un petit peu plus, maintenant qu'on s'est bien étendu sur les personnages, sur l'histoire, de la réalisation, de la prod derrière. Je sais pas si vous avez des anecdotes ou des choses à ajouter. Parler du showrunner, peut-être, Malcolm Spellman.
Moi, je connais pas trop. J'ai pas vu Empire, donc voilà, c'est ça, c'est lui. Hein, je crois que il a fait Empire. Mais si j'ai bien compris, il est censé développer un Captain America, c'est-à-dire que ça a été annoncé hier. Enfin, je dis hier parce qu'on a vu l'épisode hier. Hein, c'est le dernier épisode, donc ça a été annoncé ce week-end. Donc pour ceux qui écoutent, que en fait, en gros, il y a un Captain America, un quatrième Captain America qui est en développement, et je pense que ils l'ont annoncé parce que justement, en fait, si tout le monde ils n'ont pas voulu spoiler le fait que, bah oui, en fait, Sam Wilson devient Captain America à la fin de la série, quoi. Mmh. Mais pourtant, enfin, c'est amorcé depuis, enfin, ça semble assez évident puisqu'il me semble que c'est ce qu'il disait déjà à la fin d'Endgame, quoi.
Ce qui est hallucinant, tu vois, là-dedans, c'est que dans la promotion, justement, de tous ces showrunners et puis même du cast et tout, les mecs mettent un point d'honneur à chaque fois à te dire, non, on suit le cours organique, en fait, de chaque récit qu'on commence à développer, il n'y a pas de grand plan et tout, alors que c'est vrai que, comme vient de le dire Steph, c'est quand même très compliqué de se dire qu'il n'y a pas un gros master plan, si ce n'est en tout cas au niveau de narratif, au niveau de la gestion des franchises, quoi. C'est vraiment... vois à quel point c'est huilé, à quel point tout se succède comme ça, de façon ultra logique, à quel point ils te lancent justement l'annonce du Captain America en corrélation avec la diffusion du dernier épisode de cette série. Enfin,
ce découpage par phase...
Ouais, c'est dingue.
Et la preuve même qu'il y a un plan de bataille qui est clairement établi.
Alors maintenant... Parce que moi, je pense au tout début du MCU, non. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui apparaissent et disparaissent. Moi, par exemple, je me rappelle que le général Ross, en fait, qui est dans le Hulk de Louis Leterrier, on le revoit plus pendant 8 ans. Alors qu'en fait, à la fin du film, t'as Stark qui vient le voir pour lui dire... il faut que vous m'aidiez à monter les Avengers, tu vois. Donc bon, c'est un truc où tu te dis, c'est vraiment, en fait, ça a été fait vraiment en mettant une brique après l'autre, quoi. Mais là, effectivement, il y a un master plan, et surtout, en fait, c'est surtout, il faut communiquer tout de suite. C'est-à-dire que, en gros, moi, j'ai vu cette annonce là avant de voir l'épisode, le jour de la sortie de l'épisode. Donc en fait, c'est à un moment donné, c'est vraiment le truc où il faut continuer à avancer tout le temps. Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle que ce soit lui qui développe ça dans l'absolu, parce que voilà, mais ça démontre finalement ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que, en gros, que ce soit une série télé ou que ce soit un film, pour Marvel, c'est la même chose. Or, même si je sais pas si c'est le titre officiel, hein, Marvel Cinematic Universe, quoi. Mais dans Marvel Cinematic Universe, il y a cinéma. Et là, on est dans la série télé. Et on va probablement parler un peu plus dans le prochain épisode, hein, sur les suites. Mais disons que cette frontière, elle soit abolie. Moi, je pense que c'est problématique parce que ça devient plus du tout. C'est-à-dire, avant, on avait 3 Marvel par an. Maintenant, on a 3 Marvel plus 3 séries minimum plus, tu vois. Et en fait, ça veut dire que, en gros, on va avoir du Marvel tout le temps, toute l'année.
Ah oui.
Et bon, mine de rien, pour se renouveler là-dedans, Bah faut quand même des fois juste avoir un peu de recul et laisser faire les choses, quoi. Et tu pourrais croire qu'avec la pandémie, c'est ce qu'ils ont eu, puisqu'il n'y a pas eu de film pendant 2 ans. Mais non, enfin moi quand je vois cette série, elle rentre vraiment dans le moule de ce qu'ont fait les Russo, en fait, les frères Russo, c'est-à-dire que en gros c'est vraiment stylistiquement c'est la même logique.
En thématique, le discours,
c'est le même discours. Mmh. Les thématiques, c'est plus ou moins les mêmes thématiques. Alors oui, effectivement, comme l'a dit Julien, on peut dire que c'est de la cohérence. Mais aussi, on peut aussi dire que, bah voilà, en fait, au bout d'un moment, ça tourne en rond, quoi.
Mais c'est ça aussi, tu vois, tu nous lances sur le showrunner, mais est-ce que c'est vraiment la personne importante? En fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, et on l'a bien vu au cinéma, c'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que tout à coup t'as James Gunn qui arrive ou Taika Waititi qui arrive et dans ces trucs là et que ça va changer quelque chose? Finalement non, j'y crois pas. Moi je reste sur cette analogie que j'ai utilisée déjà plusieurs fois, qui est que Marvel est vraiment le Starbucks de la culture pop et aujourd'hui de notre imaginaire. C'est-à-dire que ils sont partout. Tout le temps, ils t'abreuvent de trucs sans arrêt. C'est extrêmement formaté. Tu sais que si tu vas prendre une boisson chez eux, que tu sois à Hong Kong, au Maroc ou à Paris ou à New York, ce sera la même boisson. Et de temps en temps, pour renouveler leur stock et te donner l'envie de continuer, eh ben il y a un petit sirop supplémentaire qui va venir agrémenter la boisson que tu vas truc. Mais ça ne reste qu'un petit sirop. C'est-à-dire que ce showrunner ou ces réalisateurs-là, finalement, ils n'apportent que le sirop. Mais le reste, pour moi, ça reste du Kevin Feige ou en tout cas de toute cette armada en fait de personnes autour. Et je trouve que du coup cette espèce de posture en fait, enfin c'est un peu plus qu'une posture, c'est vrai, mais en tout cas ce texte politique ou de la même façon que cette volonté de d'embrasser un univers de la culture pop qu'il n'aurait pas encore abordé auparavant est finalement c'est un peu fallacieux, enfin en tout cas c'est un peu hypocrite. C'est à dire que moi au final je vois pas d'auteur en fait là-dedans, je vois pas de point de vue. En fait, d'auteur, je m'en fous. Moi, je suis pas forcément attaché au truc d'auteur, mais en tout cas, je vois pas de point de vue. Il y a pas de point de vue là-dedans. Et justement, tout est fait pour niveler le point de vue. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a pas de vision du monde quand il le visite dans la série, pour moi, il y a pas de grand créateur qui va venir là-dedans. Je suis très, très curieux, du coup. Enfin, on va en reparler dans WandaVision, mais je suis très curieux de voir ce que Sam Raimi, comment il va s'en sortir, en fait, là-dedans. C'est vraiment très intéressant parce que lui, pour le coup, il s'est déjà confronté au studio. Il s'est déjà confronté à des grosses franchises très problématiques dans un grand studio qui fonctionnait déjà comme ça à l'époque de Oz, et il s'en sort. Donc je suis hyper curieux de voir comment il va s'en sortir justement vu ou pas avec son Dr. Strange. Mais on en parlera sur WandaVision.
Ouais, tout à fait. On abordera ça dans le prochain épisode. Tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, juste un truc en fait, c'est que je me demandais en réfléchissant sur ça, c'est que tu sais souvent sur Internet il y a des cuts, il y a des gens qui refont des montages et tout, et je me disais ça serait marrant qu'il y ait quelqu'un qui prenne en fait les 6 épisodes et qui décide d'en faire un film. Et c'est-à-dire qu'ils se disent, on va faire un film de 2 heures et quart.
Qu'est-ce qu'on perdrait exactement?
Et en fait, il prend ce qu'on a besoin de raconter, il rajoute un petit peu ce qu'il veut, enfin, il laisse un peu ce qu'il veut pour l'émotionnel, etc., etc. Et en fait, je pense, je me trompe peut-être, hein, probablement, si je ne suis pas à la tête de Marvel, mais que en fait, tu peux faire un film de 2 heures et quart qui se tient à peu près dans ce que ça raconte et t'as pas besoin de plus, quoi.
Bon bah si vous savez faire du montage vidéo et que
s'il vous plaît,
vous savez pas quoi faire ce week-end.
Tu le regarderas, c'est sûr.
Allez-y.
Je suis pas sûr. Non.
Voilà, c'est
ça
le truc.
On attend vos propositions. Pour conclure ce premier épisode, je vous avais dit qu'on dirait un mot sur le générique de fin de la série. Bon bah c'est le moment. On va en écouter un petit extrait. Dit tout à l'heure, la musique de la série est signée Henry Jackman et le thème du générique de fin en particulier s'intitule Louisiana Hero. Alors, Jackman a étalé au plus simple, hein. Il a pris le thème de Falcon d'un côté, le thème du soldat de l'hiver de l'autre, et il les a fusionnés pour créer ce thème de super-héros complet, en y incorporant au passage des éléments du genre blues, puisque Sam Wilson est originaire de Louisiane.
Bah pour le coup, je pense que s'il y en a un qui est vraiment parti dans la direction du buddy movie cops des années 80, c'est clairement lui, quoi. Tu sens le James Horner, là, de 48 heures et tout ça. Mais le, ou Michael Kamen, peut-être.
De l'arme fatale, ouais.
Peut-être encore plus. D'ailleurs, c'est un truc, le buddy movie, pour moi, c'est un grand rendez-vous manqué, hein, dans la série. C'est vrai qu'on a beaucoup, Steph, on a beaucoup parlé sur le positionnement par rapport au truc, mais finalement, tu les vois pas beaucoup tous les deux ensemble.
Il y a quelques clins d'œil,
mais pas beaucoup, quoi. C'est léger. Et puis, à la fin, ils sont complètement séparés. Tu vois, moi, j'ai envie de les voir ensemble. J'ai envie de voir la complémentarité en fait de deux opposés en fait, c'est ça le truc, la promesse du buddy movie. Bon, bref, mais ça, c'est autre chose et tout. Moi, il y a un truc qui me faisait rigoler dont on parlait hors antenne tout à l'heure, c'est qu'en fait Henry Jackman, il a déjà travaillé sur des bandes originales en fait, de trucs de super-héros post-modernes en fait. C'est très rigolo en fait de voir à quel point ce genre du super-héros, du film de comics, a un développement qui est complètement contre-nature en fait. De la même façon que tu vois un mec comme Zack Snyder qui fait d'abord un Watchmen et ensuite qui s'attaque au mythe séminal en fait du super-héros qui est Superman avec Man of Steel, bah là tu vois un compositeur qui vient justement qui casse et puis qui après justement essaye de s'intégrer là-dedans. Après moi cette musique quoi, ouais, je la trouve moins péchu que par exemple ce qu'il avait fait sur X-Men First Class, je préférais. Et puis le au niveau du graphique, par contre, moi c'est un truc que j'aime bien en fait chez les Marvel. Je trouve que pour le coup là, il y a, en fait, c'est la promesse pure. Je trouve sur les génériques à chaque fois, tu te dis ah ouais c'est ça en fait. Il voulait le pitch de base du sirop. La recette de base, non coupée, tu vois, dans le café que tout le monde aime là, c'est ça en fait.
C'est un
concentré du truc quoi. Et mais c'est, je trouve que c'est plus sale, c'est plus vivant, c'est plus organique quelque part ce générique de fin que toute la production design, enfin toute la direction artistique de la série.
Mais c'est très vrai hein, ce que tu dis par rapport à ça. Moi je rajouterais pas grand chose sur. Je suis d'accord avec Julien. Moi je conseille en tout cas à nos auditeurs de d'écouter la BO de X-Men First Class qui est vraiment chouette quoi. Mais c'est très vrai parce que je m'étais fait cette réflexion sur Avengers Endgame, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a de l'iconisation dans le générique de fin alors que tout le film en fait passe à côté quoi. Et là, c'est la même chose. C'est là-dessus, il y a un très bon travail en fait d'habillage chez Marvel autour de tous ces trucs-là quand même. Moi le logo, je trouve plutôt cool au début en fait hein, en soi, c'est si je me dis ah tiens, je vais voir un film de super-héros. Ah non. Et puis ouais, finalement non. Mais c'est voilà, enfin je suis un peu méchant mais oui non, j'ai pas, enfin c'est vrai, effectivement il part dans une logique buddy movie. Beaucoup plus moi je trouve Michael Kamen hein, que
c'est possible.
Horner Horner c'est plus bourrin là. C'est les riffs de guitare en fait qui font un peu ça quoi. Mais c'est pareil, il est tu sens qu'en fait c'est une de ses références, tu sens qu'on lui a dit bon nous on fait un truc à la Arme Fatale blablabla et il est allé là-dedans. Maintenant c'est pas ce qu'il a composé de mieux non plus, je trouve. Voilà.
C'était donc le générique de fin de Falcon et Winter Soldier. On l'a dit en début d'émission, hein, pas de générique de début, uniquement le jingle Marvel qui a introduit chaque épisode. Du côté de WandaVision, bah, c'est tout l'inverse. On a un générique de début différent par épisode. Ça tombe bien, ça fait partie des choses dont on va parler la semaine prochaine. Et oui, We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on revient très vite la semaine prochaine. Donc, suite et fin de cette collection spéciale Marvel, on va s'intéresser à l'autre série lancée sur Disney+, WandaVision. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné.
Merci Clémence.
Pour le premier épisode de cette nouvelle collection.
Merci Clémence.
We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux séries Marvel. D'ici là, portez-vous bien.
As the day winds down, don't let allergies disrupt your night at Aspire Allergy and Sinus. We're here to bring you peace and relief. Our expert team offers personalized allergy testing and advanced treatments so you can enjoy restful nights free from the struggles of congestion and discomfort. Make the evenings yours again. Visit AspireAllergy.com to schedule an appointment and experience a life where every breath is serene. Breathe easy. Sleep better. Aspire Allergy, your pathway to peaceful nights and brighter mornings. AspireAllergy.com.